Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Alors, Jésus s'approcha d'eux et il leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelques instants, si vous voulez, de réflexion au cœur de cette célébration. Nous venons d'entendre dans cet évangile cette parole de Jésus « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà la promesse que nous fait Jésus « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parole de Jésus, parole de Dieu. Et nous ne devons pas nous laisser abuser par le fait que Jésus n'est pas visible. Ressuscité, il est pour lui nécessaire de se tenir à l'écart de ce monde qui est marqué par la mort. Car s'il y demeure, il va falloir le transformer totalement. C'est ce qui arrivera au moment de la fin des temps, quand Jésus viendra dans la gloire. Ce monde-ci devra laisser place à un monde de lumière, de paix et de vie. Mais Jésus n'est pas absent de ce monde, il est là présent au milieu de nous, dans l'invisible, et nous pouvons le rejoindre de multiples manières, en écoutant sa parole par exemple, en priant chaque jour, en recevant le sacrement de l'Eucharistie comme on va le faire maintenant, mais en recevant aussi le sacrement du pardon, en confessant nos péchés, en nous rassemblant le dimanche à l'église. Jésus est au milieu de la communauté chrétienne rassemblée. Qu'il y ait un prêtre ou qu'il n'y en ait pas, à chaque fois que plusieurs chrétiens se mettent ensemble et prient ensemble, Jésus est là, présent au milieu d'eux. Jésus se rend présent aussi à travers le ministère du successeur de Pierre, du pape, à travers aussi l'évêque de chaque diocèse. Bref, Jésus est présent de multiples façons auprès de nous, et c'est à nous de répondre à cette présence et de nous rendre accueillants et de recevoir sa présence. Aujourd'hui, les enfants vont vivre leur première communion, la première des communions, c'est comme ça qu'on dit maintenant à la catéchèse officielle de l'Église de France, la première des communions, c'est-à-dire qu'on veut attirer l'attention sur le fait qu'on communie une première fois, mais cette communion doit être suivie d'autres communions. Le problème, ce n'est pas de communier, tout le monde en est capable. D'ailleurs, quelquefois aujourd'hui, on le fait avec beaucoup de désinvolture. Et il me semble que nous devrions réfléchir au caractère sacré de certains aspects de notre religion, pour ne pas banaliser les choses et pour ne pas agir avec légèreté et désinvolture. Tout le monde est capable de communier. La question est de le faire dans des conditions qui soient véritables et profondes, c'est-à-dire avec foi, avec amour et avec un cœur vraiment désireux. La première chose, au fond, pour bien communier, c'est de désirer recevoir Jésus, de désirer. Quand on n'a plus de désir, ça veut dire que généralement on est mort quelque part. C'est le désir spirituel, c'est véritablement la manifestation qu'on est vivant sur le plan spirituel. Recevoir Jésus. Jésus, j'ai faim de toi. Je désire ta présence. Puisque Jésus se donne sous la forme du pain de vie, la prière, Jésus, j'ai faim de toi. Je désire que tu me rassasies de ta présence. Ce n'est pas faux de parler comme ça. C'est la vérité. Voilà. Donc, une des premières conditions, c'est de désirer. Une deuxième condition, c'est d'avoir la foi, de croire. Quand Jésus nous dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est cela que nous sommes appelés à croire. que Jésus est vraiment présent dans ce sacrement et nous donne dès maintenant la vie éternelle et la promesse de la résurrection. C'est cela que nous croyons. Et nous croyons que nous ne recevons pas du pain, sinon il faut aller, j'allais dire, chez le boulanger, il y a ce qu'il faut. Nous recevons, sous la forme du pain bien sûr, la présence même de Jésus. L'Église catholique tient à ce point à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie qu'elle nous dit ce n'est plus du pain, c'est au niveau ontologique, au niveau le plus profond, au niveau de l'être, ce n'est plus du pain, c'est la présence même de Jésus, la présence vivante de Jésus qui se donne en nourriture. C'est cela notre foi chrétienne et, je dirais, catholique, parce que nos frères protestants, là-dessus, diffèrent de nous. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous considérons que, puisque Jésus se lie à ce pain, à ce point d'y demeurer, nous conservons ensuite au tabernacle, on en a parlé avec les enfants à la retraite, nous conservons au tabernacle le pain de vie qui demeure après avoir donné la communion aux personnes de l'Assemblée. Pour pouvoir porter la communion à des malades, par exemple, je l'ai fait hier, j'ai fait mon petit tour sur les quatre paroisses, il faisait soleil, c'était bien agréable, n'est-ce pas ? Pour aller porter la communion à des personnes qui ne se déplacent plus et qui sont malades, c'est Jésus qui est présent au milieu de nous, c'est Jésus que nous recevons. Nos anciens, ils savaient ça. Nous, on a perdu cette vue, mais nos anciens, ils savaient qu'ils pouvaient pénétrer dans l'église et venir prier devant le tabernacle parce que Jésus est vraiment présent sous la forme du pain de vie. Nous, il nous arrive l'été, quand nous visitons des églises, de passer devant le tabernacle sans même un geste, un signe ou quoi que ce soit qui manifeste notre foi. Et nous agissons encore une fois avec désinvolture. Il faut que nous exprimions véritablement notre foi. Mais chacun est libre, car Dieu est amour et il ne veut que des démarches d'amour à son égard. Chacun de nous est libre, c'est très important aussi. Donc il respecte notre liberté. Mais sachons respecter aussi notre religion. Et aujourd'hui, peut-être, je voudrais souligner les deux aspects caractéristiques de notre religion chrétienne par rapport à l'islam, par rapport aux courants orientaux ou d'autres choses qui se manifestent aujourd'hui. Premièrement, nous croyons au Dieu Trinité, c'est la fête de ce jour. Nous croyons que Dieu est famille, que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Les musulmans ne croient pas à cela. Ils croient en un Dieu unique, certes, mais un Dieu tout-puissant devant lequel ils se prosternent. Un Dieu, quelque part, qui est un peu tyran aussi. Nous croyons, nous, que Dieu est famille d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis la deuxième caractéristique de notre foi chrétienne, nous croyons que Dieu a voulu se lier à sa création jusqu'à devenir comme nous. Et c'est Jésus, le Fils, qui est venu jusqu'à nous et qui est Fils de Dieu fait homme. Et Jésus nous aime à ce point qu'il a voulu aussi se lier à la matière elle-même, au pain, en se donnant en nourriture dans le sacrement de l'Eucharistie. Vous ne trouvez ça dans aucune autre religion. Dans aucune autre religion. Et évidemment, cela suppose de notre part une connaissance de ces mystères, mais aussi la foi. La foi, il faut y croire. Si nous n'y croyons pas, nous ne pouvons pas y adhérer, bien sûr. Alors les enfants, aujourd'hui, vous allez recevoir Jésus pour la première fois. Je vous ai dit cette semaine, ouvrez votre cœur à Jésus. Quand vous aurez reçu son corps, ouvrez votre cœur à Jésus, de sorte à ce que Jésus puisse agir en vous. Jésus est vie, Jésus est amour, Jésus est lumière. Et si nous lui donnons la clé de notre maison intérieure, Jésus vient y déposer tout cela. Il vient nous faire vivre. Il vient nous faire vivre. Un chrétien, c'est profondément quelqu'un qui vit, qui a les pieds sur terre, mais qui vit, et qui vit éternellement, et qui vit de façon forte, puissante, parce que Dieu est en lui. C'est ce qui a amené des chrétiens à aller jusqu'à devenir martyrs, à donner leur vie plutôt que de, par lâcheté, d'adorer des idoles. Je dis non, moi je suis croyant, je crois en Jésus, et j'en ai pas peur, et je suis à l'aise dans ma foi, je suis droit dans mes bottes de chrétien, vous pouvez me faire ce que vous voulez, c'est ma foi, c'est la vérité. Voilà. Lorsque vous venez communier tout à l'heure, je vous rappelle, nous faisons un beau geste pour accueillir Jésus. C'est très important de présenter ses mains comme un geste de désir, d'attente, d'accueil. Saint Cyril, vous ne connaissez pas les personnes qui s'appellent Cyril ici? Si, il y en a. Saint Cyril, qui était prêtre de Jérusalem et qui était un homme très doué pour enseigner. Il est aux alentours de 350 à Jérusalem, au 4e siècle. Il a été élu évêque de cette ville. Mais avant, il était chargé par son évêque de préparer les nouveaux baptisés à leur baptême, enfin ceux qui allaient être baptisés, les adultes qui demandaient le baptême. Et il a fait des catéchèses qui sont parvenues jusqu'à nous. Il y en a 18 qui sont restées écrites et qui sont parvenues jusqu'à nous et qui sont des perles, des textes de grande beauté. Et Saint Cyril, quand il était évêque en 350 après à Jérusalem, disait « Quand tu veux recevoir Jésus, fais de ta main un trône pour le roi du ciel. Fais de tes mains un trône pour accueillir le roi du ciel. » Donc nous disions, nous mettons nos mains ainsi, nous répondons « Amen » lorsque le prêtre nous dit « Le corps du Christ, c'est le corps du Christ ». Et « Amen », ça veut dire « Oui, je crois, oui, c'est vrai, c'est la vérité ». C'est un mot hébraïque, de la langue hébraïque, du verbe « Aman » qui veut dire « s'appuyer sur quelque chose de solide ». Voilà. « Amen », c'est vrai, je le crois. Donc, vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas répondre « Amen », ils disent « Merci ». Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est « Je crois ». C'est déjà mieux que rien, bien sûr. Mais le sens de notre foi, c'est pas... C'est de dire « Je crois, Seigneur, en ta présence ». Et l'acte de foi touche Dieu. L'acte de foi nous permet de recevoir la merveille de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on avait dit encore pour bien communier? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà loin, ça fait quelques jours. On avait dit aussi, oui, il faut prier, bien sûr. Hein. Quand on retourne à sa place, qu'est-ce qu'on fait? On ne papote pas avec la voisine. Mais on ferme les yeux, on prie à l'intérieur et on se laisse à Jésus. Je suis un peu sourdingue. On baisse la tête. Alors on baisse la tête, ça c'est peut-être au moment de la consécration. Quand le prêtre redit les paroles de la consécration et qu'il dit « Ceci est mon corps livré pour vous », à ce moment-là le pain devient le corps de Jésus et alors on fait un geste d'adoration. On peut se mettre à genoux, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les chrétiens d'aujourd'hui ont des problèmes de rotule. Ils sont légèrement rouillés à ce niveau-là, ils n'arrivent plus à se mettre à genoux. C'est impossible, ça les dépasse. Mais on peut aussi se prosterner, on peut baisser la tête en ce sens-là, comme geste d'adoration. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Arthur ? Il ne faut pas manger avant. Oui, c'est ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. Hein, nos grands-mères ici qui sont dans l'Assemblée savent bien qu'autrefois, le jeûne eucharistique durait 3 heures avant la messe. C'était un peu long. On a réduit ça à 1 heure depuis le concile, 1 heure avant la communion. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne rentre pas dans une église en mâchouillant du chewing-gum et que, quelque part, se priver de nourriture avant de communier, ça veut dire je me prépare à recevoir une autre nourriture qui est plus importante que la nourriture du ventre. Oui, Marion. Il faut aller à la messe régulièrement, oui, ça c'est vrai. Pour bien communier, il faut aller à la messe régulièrement et y aller de communion en communion, au fond. Quelquefois, moi, je suis un petit peu estomaqué de constater que des chrétiens qui viennent à un mariage ou à une sépulture, ça nous arrive à tous, vont communier alors que ça fait, par exemple, 20 ans qu'ils n'ont pas été communiés. Il faudrait, repasser par la case départ qui consiste à dire « Je vais d'abord demander le pardon de mes péchés avant d'aller communier. Je vais demander au Seigneur de faire... Comment dire, le ménage à l'intérieur, voilà, le sacrement de réconciliation, le pardon. Sinon, nous agissons avec légèreté, mais c'est une nourriture sacrée, et donc il est important. Mais même quand on va communier tous les dimanches, par exemple, il est important d'aller se confesser de temps en temps, c'est vrai. L'Église dit avant les grandes fêtes, certains chrétiens ensuite ont pris l'habitude d'y aller encore plus souvent, pour pouvoir vraiment... vivre dans la vie de Dieu, la grâce de Dieu, et en éprouver tous les bienfaits. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour bien communier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Croire, et toujours croire, et aimer Jésus. Alors, préparons-nous à cette célébration que nous allons vivre, et puis, vraiment, soyons heureux que Dieu nous aime à ce point, qu'il se donne tout entier à nous, de façon si simple et si humble de sa part.